Bon matin à tous. Merci d'être là. Et je vous inviterai à tourner dans la première lettre de Jean au chapitre 4, 1 Jean 4, 11, plus précisément. Et pendant que vous tournez dans 1 Jean 4, salutations à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent sur la toile. Merci, bienvenue parmi nous. Et je fais simplement réitérer l'invitation. Peut-être que vous nous écoutez via la technologie parce que vous êtes au loin, mais si vous êtes dans la région de Gatineau ou des Laurentides, on vous invite à venir chez nous, venez nous voir, venez nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Et même si on est une église baptiste évangélique, tout le monde peut venir ici si vous voulez grandir, cheminer avec Dieu, apprendre à connaître Dieu, eh bien, soyez là avec nous, ça vaut la peine. Avant qu'on débute, les paniers de Noël, eh bien, oui, encore cette année, l'Église Le Sentier s'implique au niveau des paniers de Noël à deux niveaux. Et ça va avoir lieu le 16 décembre. Et il y a trois façons que vous pouvez participer. C'est en faisant un don pour justement aider à mettre en œuvre, mettre sur pied ces paniers de Noël-là. Parce qu'on veut que pour les gens de l'Église, on puisse offrir un panier d'une valeur de 125 $ pour que les gens qui sont plus démunis, qui sont moins fortunés, puissent vivre un bon temps spécialement à Noël. La plupart d'entre nous, on est à l'aise, et puis même chez certains, c'est des vrais festins, festins de nourriture, et puis pour d'autres, mais c'est plus difficile, et ça leur permet de pouvoir vivre un beau Noël. Et la contribution de chacun fait en sorte que Noël devient plus beau. Et l'autre façon de s'impliquer, eh bien, c'est en étant là, soit pour acheter de la nourriture, des denrées non périssables, ou aller distribuer les paniers à ce moment-là. Vous faites partie de l'organisation. Vous pouvez aussi apporter des denrées non périssables. Il y a une liste qui est disponible au foyer. Donc, si vous voulez vous impliquer, si vous voulez apporter de la nourriture ou faire des dons, vous pouvez aller au foyer, au kiosque, et puis on va vous donner toute l'information nécessaire, qui contacter, etc. Et l'objectif, c'est d'avoir une trentaine de paniers pour les gens de l'Église, parce qu'il y a des gens dans l'Église ici qui sont dans le besoin, mais on veut aussi rayonner pour démontrer à la population de Gatineau qu'on pense à eux et que l'Église, ce n'est pas simplement pour les membres, les adhérents, mais l'Église s'ouvre à la communauté. Et donc, on vise 80 paniers d'une valeur de 80 $. Alors, si vous voulez vous impliquer, ça vaut la peine. Il y a déjà deux groupes connexion qui vont faire de ce projet, un projet de rayonnement. Et ça, ça va être intéressant parce que les groupes connexion, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas là simplement pour recevoir, mais aussi pour donner. Parce qu'on veut que dans les groupes connexion, on puisse connecter avec Dieu, connecter les uns avec les autres et connecter avec la communauté. Alors, ceci étant dit, 1 Jean chapitre 4. Verset 11, on va voir ensemble que l'amour de Dieu, c'est une expérience inégalée. Une expérience inégalée parce qu'il n'y a rien de plus puissant, rien de plus transformateur que l'amour de Dieu. Dieu en parle tout au long de la Bible, il en parle dans l'Ancien Testament, il est question de son amour, il est question de son amour dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans cette première lettre de Jean. L'amour est vraiment clairement démontré et c'est un sujet qui est développé dans cette lettre-là, et spécialement au chapitre 4. Et nous, on va débuter avec le verset 11. Et l'amour, ça a tellement d'impact. La preuve, c'est qu'on peut dépenser des sommes colossales d'argent quand on est en amour. C'est incroyable ce que ça peut faire, l'amour. Ça peut nous faire faire des choses étranges parfois, mais ça peut nous amener aussi à dépenser énormément. Écoutez, TVA avait publié sur sa plateforme combien ça pouvait coûter en moyenne à un couple à leur première année d'amour. Eh bien, selon l'agence QMI, on mentionne ceci. Selon une étude de ratesupermarket.ca, paru en février, en faisant référence à février 2017, le couple canadien moyen dépense facilement un peu plus de 11 500 $ 11 500 beaux dollars au cours de la première année d'une fréquentation sérieuse. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'est de l'argent en bébite, ça. Ce que ça peut faire, l'amour, hein, ça amène à dépenser de l'argent. Et pour parvenir à ce montant, les auteurs de l'étude ont estimé qu'un couple nouvellement formé peut se rencontrer en un an 24 fois pour des petits rendez-vous, ce qui veut dire une somme de 550 $, 12 fois pour des rendez-vous plus huppés, ça peut être une fin de semaine à quelque part, ou 3 650 $, 12 fois au cinéma, 550 $, ça inclut le popcorn évidemment, et peut dépenser près de 6 800 $ en fleurs, cadeaux et vacances conjointes. Quand on dit vacances conjointes, c'est qu'ils partent ensemble en vacances. Et 11 500 $, c'est de l'argent. Mais c'est motivé par quoi? C'est l'amour. Quand on aime, on ne compte pas notre temps, on ne compte pas notre argent, on est prêt à dépenser, se donner. Et c'est pour ça que pour comprendre la relation amoureuse qui a le plus d'impact, il faut voir ensemble le parcours de l'amour de Dieu. Et c'est ce parcours-là que Jean nous trace dans ce segment du chapitre 4, les versets 11 à 21. On a vu dans le deuxième message de cette série sur la première lettre de Jean, quand on a couvert le premier chapitre, les versets 8 jusqu'au deuxième chapitre, verset 2, le parcours du mal, comme quoi le mal est dans notre cœur, mais il est appelé à se retrouver à la croix. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est le parcours de l'amour. Et le parcours de l'amour, on va voir l'origine de l'amour, l'expérimentation de l'amour, puis l'effet de l'amour de Dieu dans nos vies. Et avant qu'on entre dans le texte, eh bien, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir ensemble. Puis la raison pour laquelle on se recueille, eh bien, c'est pour parler à Dieu, pour prier et remettre nos cœurs au Seigneur pour recevoir ce qu'il veut nous donner comme nourriture à méditer cette semaine. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, nous corrige, qui façonne notre pensée, notre comportement, nos attitudes, nos perceptions. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous révèle que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Et Père, puisses-tu changer notre perception de toi pour qu'on puisse te voir tel que tu es, afin que notre vie démontre et manifeste que tu es un Dieu d'amour vivant. Que les gens voient au travers de nos vies ce Dieu vivant que tu es. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Bien, l'amour de Dieu, c'est une expérience inégalée. Et c'est une expérience qui se vit avec Dieu. Parce que l'origine de l'amour, le point de départ, se trouve en Dieu. L'amour se trouve en Dieu. C'est là qu'on peut découvrir un amour véritable, un amour authentique. Et au verset 11, Jean va nous dire à ceux qui sont l'objet de son amour, donc les bien-aimés, Puisque Dieu nous a tant aimés, nous avons l'obligation morale de constamment nous aimer les uns les autres. C'est à ça que Dieu nous appelle. En étant l'objet de l'amour de Dieu, on reçoit de Dieu l'amour qu'il a pour nous, et ce que ça produit comme effet, comme impact, ça nous amène à aimer les autres autour de nous. Et le défi, c'est d'aimer ceux qui ne sont pas toujours aimables. Et comment on peut y arriver? En découvrant que toi et moi, on n'est pas toujours aimables devant Dieu. Mais Dieu nous aime. Et au verset 12, il dit, « Personne n'a jamais vu, n'a jamais contemplé Dieu dans son essence et n'a pas la capacité de le faire. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour a complété son œuvre en nous. » L'œuvre de Dieu, lorsqu'elle se complète, lorsqu'elle est à pleine maturité, quand l'amour de Dieu est à pleine maturité dans nos cœurs, eh bien, ça se manifeste par un amour pour les autres. Et c'est là que le Seigneur veut travailler dans nos vies. Nous démontrer qu'il nous aime pour qu'on puisse, nous aussi, de cet amour qu'il a pour nous, aimer les autres. Et c'est au travers le pardon qu'on va découvrir l'amour de Dieu. Jésus disait, celui qui est pardonné de peu ou se sait pardonner de peu va aimer peu. Mais celui qui se sait pardonner de beaucoup va aimer beaucoup parce qu'il y a une reconnaissance. Il y a une attitude qui se développe. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui me tapent sur les nerfs. Je dois l'avouer, je dois le confesser. Mais quand ça m'arrive, je vais voir le Seigneur puis je dis, ça doit m'arriver aussi que moi, je te tape ses nerfs. Ça doit arriver que des fois, dans mon comportement, dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes paroles, je ne suis pas toujours agréable envers toi. Mais ça ne t'empêche pas de m'aimer, ça ne t'empêche pas de me montrer que tu m'aimes, que tu prends soin de moi, ça ne t'empêche pas d'ouvrir des portes, ça ne t'empêche pas de m'appuyer, ça ne t'empêche pas de me consoler. Et ça, ça me ramène sur terre. Puis ça me ramène sur terre en ce sens que je découvre à ce moment-là que je ne suis pas le nombril de l'univers. Et que tout ne tourne pas autour de mes perceptions, mais quand je suis devant Dieu, puis qui me refocus en fonction de son amour, et là, les perspectives changent. Là, mon attitude change. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous aimer continuellement les uns les autres, parce que lui, il nous aime continuellement. On est l'objet de son amour. On ne peut pas voir Dieu dans son essence, hein, vous savez. Moïse a tenté le coup, dit hey, « Seigneur, j'aimerais ça te voir. » Et il a dit « Non, non, tu ne peux pas me voir et vivre. » Mais va te cacher dans le rocher, on voit ça dans l'Exode. Et puis, le Seigneur lui a montré son dos. Et évidemment, si Dieu apparaissait dans toute sa gloire devant nous, on serait mort. Parce qu'il est saint, il est pur, il est totalement parfait, il est d'une lumière inaccessible. Mais, on va le voir un peu plus loin dans le texte, en se faisant homme, il a pu manifester qui il est dans son caractère, dans sa personne, dans sa personnalité. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres de l'amour qu'il a pour nous. Et ça peut se manifester de différentes façons. Et parfois, je perds de vue que Dieu m'aime parce que je le prends pour acquis qu'il m'aime. Je le prends même parfois comme un dû. Je deviens tellement habitué à l'amour de Dieu que je perds de vue que je suis aimé de Dieu. Et ça, c'est malsain. Et puis c'est un peu, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue hier soir. Mon ami Claude, il a un peu de sang italien, et il est très expressif. C'est un gars qui est... Quand il sent à l'aise, il est expressif, puis il parle avec ses mains, puis des fois, il parle fort, puis il dit tout ce qu'il pense par la tête. Des fois, des bonnes choses, des fois, des niaiseries, comme ça m'arrive, tu sais. Mais, fait que Claude, il me dit hier, On attendait d'autres amis parce qu'on était réunis ensemble dans la région de Montréal. Et puis, j'étais avec Serge Deslongchamps. Puis là, Claude disait, hey, « je vous aime. » Puis là, on était contents, Serge puis moi. « Merci, Claude, nous autres aussi, on t'aime bien. » Puis là, un moment donné, dans la soirée, tu sais, lui était dans la cuisine, moi, j'étais dans le salon, puis il s'en vient vers moi, puis il me prend, puis il dit, « Hey, Eric, je sais que je te l'ai dit, mais je veux te dire encore que je t'aime. » Là, je disais, merci Claude, moi aussi je t'aime. Puis je trouvais ça le fun, tu sais, je trouvais ça cute, je trouvais ça, tu sais, c'était comme, ouais, c'est cool, c'est Claude, ça. Il me dit qu'il m'aime. Tu sais. Puis, ce matin, en repensant à ça, je me suis dit, hey, même si Claude me le dit souvent, je ne dois pas prendre ça pour acquis. Je dois voir ça comme étant précieux. Puis je me dis, hey, dans le fond, là, il n'y a pas grand monde qui m'ont dit la semaine passée, « Hey, je t'aime, Eric. » Fait que c'est quand même spécial. Puis moi, quand il me l'a dit sur le coup, c'était bon, je suis habitué, il me le dit souvent. Tu sais. Mais après ça, je me suis dit, « Non, il faut prendre ça comme étant quelque chose de précieux. » Levez donc la main, ceux, à part qui l'ont entendu de votre époux ou votre épouse, parce que ça, vous devez l'entendre au moins 4-5 fois par jour, ça, « Je t'aime. » C'est sûr, minimum. Ça arrive. Ben, peut-être 9-10 fois par jour d'abord que vous devez l'entendre. Je t'aime. Il me semble que c'est normal, ça, de se le dire au moins une fois par heure. Mais à part votre conjoint-conjointe, parce que vous vous le dites souvent, puis en vous regardant dans les yeux, en vous prenant les mains, mais à part ça, là, est-ce qu'il y en a qu'au moins 3 fois la semaine passée, quelqu'un vous a dit « je t'aime » 3 fois. Ah oui, ouais. Wow, c'est le fun, ça. Ouais, cool. Hey, ça, c'est le fun. Ça. Wow, hey, wow. Ça, plus qu'à la première célébration. Vous êtes des gens qui êtes plus aimés à la deuxième célébration. Fait que, non, mais c'est spécial parce que là, je me disais ça, wow. Tu sais, Claude, c'est pas rien. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je veux pas prendre ça pour acquis. C'est précieux. Et puis là, ça m'amenait dans un deuxième segment, cette réflexion. Ça m'amenait à dire, ouais, mais. Combien de fois le Seigneur me manifeste qu'il m'aime, mais je le prends pour acquis. Je prends ça comme un dû. Ou parfois, je ne le vois même pas, puis il manifeste son amour, puis j'en suis inconscient. Et là, ça m'a amené à dire, « Wow, Seigneur, peut-être que des fois, je me prive de ton amour parce que je prends tellement ça pour acquis. Puis je ne vois plus le côté précieux de chaque petit geste, chaque provision, chaque effet de ton amour. » Et vous savez, c'est tellement précieux. Et moi, je le sais, la semaine dernière, j'étais au gym. Ça a donné à cause que, bon, j'étais au congrès à Toronto, puis là, d'habitude, je suis toujours au gym avec ma femme, mais là, l'horaire a changé, fait que je voulais quand même aller au gym. Elle était à Ottawa au travail, fait que moi, j'ai pu y aller le matin tôt. Pour faire une histoire longue courte, on n'était pas ensemble. Mais là, je vois une sœur dans l'assemblée qui est au gym, parce que là, je ne suis pas allé à l'heure habituelle. T'sais. Là, je la vois, puis je l'observe, parce qu'elle est dans mon champ de vision. Là, je la vois, puis à chaque fois qu'elle passe devant quelqu'un, elle s'arrête puis elle y parle. Moi, quand je vais au gym, je suis dans ma bulle. Je m'en vais pas là pour jaser, je m'en vais là pour faire de l'exercice. Puis moi, si jamais vous me voyez dans le centre d'achat, puis je ne vous dis pas salut, c'est pas parce que je ne veux pas vous voir, c'est que souvent je suis dans ma bulle, je suis dans mes pensées, je suis là, je vis dans mon univers. Puis il suffit juste de la percer la bulle. Pshut, hey, allô Eric! Puis, ah, OK, je reviens sur Terre. Fait que. Puis au gym, c'est comme ça. Je fais mes exercices, tu sais, avec Nat. Et puis, mais là, je la vois. Je la vois aller. Puis là, elle parle à des gens. Non, en fait, elle ne parle pas à des gens. A fait parler les gens. C'est une femme discrète. Dans l'église, je vous dirais, c'est qui, là? Puis je disais, je ne connais pas. Elle est discrète. Mais elle manifestait tellement d'amour parce qu'elle posait des questions, puis ces questions qu'elle posait, ça démontrait qu'elle s'intéressait aux gens puis qu'elle les connaissait. Puis je me souviens, moi, j'étais en train de travailler mes triceps. Puis là, elle était juste à côté de moi, puis il y avait un monsieur sur l'autre machine, puis il commence à ouvrir son cœur, puis à y parler, puis là, j'étais tout émerveillé. Je dis, moi, je ne suis pas comme ça. Puis elle, ça avait l'air tout naturel. Puis, fait que, Je m'en vais. Moi, je finis toujours par le cardio. Selon mon entraîneur, c'est mieux parce que quand on commence par le cardio, on brûle du muscle. Mais quand on finit par le cardio, on brûle du gras. Fait que je finis. Mais moi, je trouve ça tellement, après avoir tout fait la musculation, j'appelle ça la torture. Quand on arrête de faire les abdos, Nat, puis moi, je dis, OK, je m'en vais à torture. Puis elle y va aussi après. Puis, et là, je finis ma torture. Et je me dis, bon, ben, je vais aller saluer la sœur, tu sais, par politesse. Puis. Fait qu'elle a ses écouteurs. Elle est en train de... Elle a travaillé ses biceps. Puis là, je dis, ben, je vais faire un petit salut, je ne dérangerai pas, elle écoute quelque chose. Mais là, non. Elle dépose ses poids, elle enlève ses écouteurs, puis elle commence à me parler. Moi, j'aurais juste fait un petit bye-bye, tu sais, en voulant dire, ben, laisse-moi continuer, là, je veux rester dans ma bulle, là, puis bye-bye. Non, elle... Tu sais, j'étais là, j'étais tout émerveillé, ça m'a touché. Et là, elle commence à me parler, puis elle commence à me parler. Puis elle m'explique quelque chose qu'elle vit, puis que je voyais qu'il y avait de la culpabilité, tu sais, qui était là, qui était restée. Et puis, c'est comme si je réalisais, je dis là, elle s'est donnée à plein de gens, puis là, elle a besoin de ce moment-là. Là, c'est son moment pour recevoir, là, tu sais. Puis je vais être là pour elle, puis je vais l'écouter. Puis à un moment donné, j'ai dit une parole qui lui a fait du bien. Puis je suis convaincu qu'elle vient de Dieu, cette parole-là. J'ai dit, tu sais, quand on était à l'école puis on remplissait un examen, on répondait à un questionnaire, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des questions qu'on manque, hein, qu'on échoue, qu'on a zéro. Mais ça ne veut pas dire qu'on a coulé l'examen. Puis devant Dieu, ce qui s'est passé avec toi, tu as peut-être manqué à un endroit, mais tu n'as pas coulé l'examen. Puis tu as appris de ça. Puis là, c'est comme si elle voyait cette situation dans une toute nouvelle perspective. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que souvent, ce n'est pas que l'amour de Dieu n'est pas accessible, c'est notre perception de Dieu, puis notre définition, notre perception de l'amour de Dieu qui est faussée, qui est teintée par nos mauvaises expériences, qui est teintée par des relations problématiques qu'on a eues, qui est teintée par toutes sortes de choses, qui fait que Dieu manifeste son amour, mais on ne l'interprète pas comme des gestes d'amour. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il dit « Nous expérimentons et nous reconnaissons sans cesse que nous demeurons en lui et qu'il fait sa résidence permanente en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. » Et l'Esprit qu'il nous a donné, justement, c'est pour remplir, on le voit dans Romains 5, notre cœur de son amour, pour nous rappeler qu'on est enfant de Dieu, Romains chapitre 8, pour nous rappeler qu'on est des enfants désirés de Dieu. Et son Esprit est là aussi pour nous montrer, c'est une force ou une source, c'est un être intérieur, parce que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est un être intérieur qui communique avec nous de l'intérieur. Et ici, Jean est en train de faire le contraste entre la révélation extérieure, où est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix, et la révélation intérieure par la communication du Saint-Esprit, comme quoi Dieu veut, son désir, c'est d'habiter en permanence avec nous parce qu'il chérit la relation qu'il a avec nous. Notre cœur devient sa résidence permanente. Et en même temps, c'est un croc en jambe aux gnosticistes ou aux gnostiques qui, eux, se disaient des initiés. Il y avait une révélation, eux autres, que les autres personnes n'avaient pas. Mais Jean est en train de déclarer, il dit, non, tous ceux qui sont enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu fait sa demeure en eux. Ce n'est pas juste des initiés qui ont accès à la présence et à l'amour de Dieu. Et ça, c'est vraiment précieux. Jacques chapitre 4, verset 5 nous dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit, « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Pourquoi? Parce que justement, il habite en nous. Et il va dire au verset 14, « Nous attestons et nous avons délibérément contemplé que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. » Et c'est là la source extérieure, le sauveur du monde, celui qui a pris nos fautes, nos péchés. C'est, encore une fois, c'est une démonstration d'amour. Mais il y a quelque chose que j'ai appris en étudiant ce passage-là, c'est qu'encore une fois, Jean utilise une expression non chrétienne ici, sauveur du monde. Là, vous allez dire, Éric, voyons donc, le sauveur du monde, c'est une expression chrétienne. On le chante à Noël, tu sais, c'est le sauveur du monde. Il n'y a pas plus chrétien qu'expression. Non, c'est une expression païenne, une expression qui venait du monde romain, qui a été christianisé par Jean. Et qu'après ça, nous, en lisant la Bible, on l'utilise comme une expression chrétienne. Mais le sauveur du monde, ça faisait référence à l'empereur romain, qui justement était là pour conquérir les nations, puis établir son empire. On attribuait à César cette expression-là, que Jean a récupérée pour dire, non, le sauveur du monde, ce n'est pas l'empereur, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est une expression non chrétienne qui a été christianisée. Et c'est pour ça qu'il y avait des tensions dans l'Empire romain, puis c'est pour ça que les chrétiens étaient persécutés parce que c'était des bons citoyens, c'était des citoyens loyaux. Mais ils ne voulaient pas fléchir le genou devant l'empereur. Ils étaient prêts à se soumettre à l'empereur, mais à ne pas l'adorer comme Dieu. Parce que les chrétiens disaient non, nous, notre sauveur, le sauveur du monde, ce n'est pas l'empereur, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est ici que Jean a christianisé une parole non chrétienne. Et c'est pour ça qu'il va suivre, si quelqu'un confesse, admet ou reconnaît que Jésus est fils de Dieu, parce qu'il est l'envoyé de Dieu, il est le sauveur du monde. Et ce chrétien-là, pour lui, c'est réglé une fois pour toutes. Eh bien, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. En d'autres mots, Dieu fait son habitation permanente dans le croyant. Et après avoir mentionné que l'amour se trouve en Dieu, l'amour a son origine en Dieu, Jean veut nous amener à ce qu'on expérimente l'amour de Dieu. Or, nous avons expérimenté l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est pourquoi nous en recevons les bénéfices. Dieu est amour et celui qui fait son habitation séjourne d'une manière permanente en Dieu et Dieu séjourne d'une manière permanente en lui. Et un élément clé dans ce verset-là, c'est nous avons expérimenté l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Deux éléments importants. Un, Dieu nous appelle à l'expérimenter, pas juste l'entendre, pas juste le connaître intellectuellement, pas juste le savoir, mais expérimenter que Dieu nous aime. Vivre cette expérience-là. Moi, régulièrement, quand je me rends compte que ma vie chrétienne ou ma relation avec Dieu a besoin d'un punch, d'une stimulation, que je sens, je dis, bon, OK, c'est correct, mais il me semble que j'ai envie de vivre quelque chose de plus. Et régulièrement, je parle au Seigneur, puis je dis, hey, il me semble que j'aurais besoin en ce moment que tu me rappelles que tu m'aimes. Combien c'est précieux. Et récemment, le Seigneur m'a touché parce que je m'en allais, j'étais tout seul à la maison, je m'en vais pour prendre ma douche. Et moi, mon rituel avant de prendre ma douche, c'est je me rase, je me fais la barbe. Et puis, j'ouvre la porte, je vois un petit post-it, « Je t'aime, mon amour ». C'est Nathalie qui avait écrit ça. Puis ça a été une surprise, mais c'était là, « Wow! Oh, ça m'a touché. » Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, « Oui, mais le Seigneur, il n'est pas vivant, il n'est pas palpable, ce n'est pas un être humain, on ne peut pas le toucher. » Mais il utilise des êtres humains pour nous montrer qu'on est aimé. Mais c'est lui qui est à l'origine de ça. Ce sont des clins d'œil de Dieu et de l'expérimenter, mais Jean ne s'arrête pas là. Il ne veut pas juste qu'on l'expérimente, mais qu'on y croit. En d'autres mots, là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des mauvaises expériences, des mauvaises relations qui font en sorte que on vit des blocages face à l'amour de Dieu. On le sait qu'il nous aime, mais en vérité, on n'y croit pas tant que ça. ça se révèle. On se trahit par nos paroles, par nos pensées. Quand il nous arrive une épreuve, puis qu'on se dit dans le fond de notre cœur, « Hey Seigneur, pourquoi tu as permis ça? C'est donc bien plate. » Et puis de trouver ça plate qu'il y a une épreuve, je veux dire, c'est pas là qu'est le problème. Mais c'est d'avoir ce réflexe, puis qui est normal à cause du péché, qu'on a l'impression que Dieu nous aime pas. Et l'ennemi, notre adversaire, veut continuellement nourrir ce fait-là. C'est ce qu'il a tenté de faire. Il a réussi avec Adam et Ève. Ben voyons donc, Ève. Tu sais bien que le Seigneur, il ne vous aime pas. Il ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Il ne veut pas que vous ayez l'intelligence ouverte, là. Puis que vous ayez votre propre perception des choses. Il ne vous aime pas. Il veut vous avoir juste pour lui. Puis il veut que vous soyez sous sa domination. Voyons donc. Mais là, tu vas être libre, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas saisir, tu vas discerner entre le bien et le mal. Et c'est toujours pour remettre en question que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'on doit demander à Dieu, je veux l'expérimenter, mais maintenant je veux que tu m'amènes à pouvoir y croire, à changer mon focus, à changer l'orientation de ma vision des choses pour pouvoir y croire à ton amour. Parce que vous savez, ce que Dieu aime, c'est de marcher avec nous, de vivre avec nous, de ce qu'on soit ensemble. Et moi, ce que ça me fait réaliser, que quand quelqu'un n'expérimente pas l'amour de Dieu et n'adhère pas à l'amour de Dieu, eh bien, ce que ça génère en nous, justement, toutes sortes de comportements étranges, et ça nous amène à aller en dehors de Dieu pour être assouvi. On a tous cette tendance humaine-là à cause du péché. Et c'est pour ça qu'une personne qui va abandonner Dieu ou qui va s'éloigner des voies de Dieu ou qui va s'éloigner de l'Église dans une attitude en disant « je veux prendre un recul » et souvent, si on est dans cette attitude-là, c'est parce qu'on a perdu de vue l'amour de Dieu pour nous. On a perdu de vue que Dieu nous aime. On a perdu de vue le plan d'ensemble. On a perdu de vue que l'épreuve, c'est temporaire et l'épreuve, ce n'est pas contre nous. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se nourrit de l'amour de Dieu, comme Jude va dire, qui se maintient dans l'amour de Dieu, et ça produit de l'assurance, même de l'assurance au jour du jugement. C'est en cela, verset 17, que l'amour qui caractérise Dieu a complété sa mission en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui se sait aimé de Dieu veut être avec Dieu, veut marcher avec lui, veut vivre avec lui, veut expérimenter, veut affronter les épreuves avec lui. C'est pour ça que dans le psaume 23, la brebis, elle est bien avec Dieu parce qu'il l'amène dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Il restaure son âme, mais quand il est en danger dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Parce qu'il est avec lui, il est avec elle, la brebis. Quand il est dans l'adversité, il est là pour défendre, prendre soin. Vous allez dire, oui, mais il y a bien des épreuves qu'on a vécues de la douleur. Oui. Mais Dieu s'est engagé dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, que si on a part à la souffrance, on a aussi part à la consolation. Et c'est pour ça qu'on vive dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans le danger, dans l'adversité ou dans la grâce, on peut être connecté avec Dieu puis connecté à son amour. Et c'est pour ça que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, ça parle du rayonnement, ça parle de rayonner, ça parle de rayonner dans notre milieu, ça parle de rayonner dans l'Église, ça parle de rayonner partout où est-ce qu'on est. Parce que si l'amour de Dieu est en nous, ça va produire un effet et ça nous amène à l'autre point. Eh bien, en expérimentant l'amour de Dieu, eh bien, inévitablement, on va manifester les effets de cet amour-là. Et c'est pour ça qu'au verset 19, il va nous dire, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et ce qui est important là-dedans, c'est que si Dieu manifeste son amour envers moi, j'ai rien à craindre. Au verset 18, il nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et ça ici, la peur, ça fait référence à un esclave qui est tourmenté parce qu'il a peut-être commis une gaffe, il a peut-être brisé quelque chose, ou il a fait quelque chose que son maître, il sait qu'il ne sera pas content, et il se dit, je vais certainement vivre une punition, un châtiment, soit des coups de bâton, soit des coups de fouet. Et il est dans cette crainte-là en disant, ah oh non, je n'ai pas hâte que mon maître arrive ou qu'il sache ça, parce que je vais vivre, je vais vivre des blessures, c'est clair. Mais Dieu dit, non, non, si tu es dans mon amour, tu n'as pas à craindre ça. Parce que Jésus-Christ, justement, a porté nos fautes. Il est le sauveur du monde. Et si je me nourris de ça, l'effet que ça va produire un amour pour Dieu et aussi un amour pour les autres. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés au verset 10. Et si quelqu'un dit « J'aime constamment Dieu alors qu'il déteste constamment son frère », c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il a dans son champ de vision, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas dans son champ de vision? En d'autres mots, l'amour que j'ai pour les frères, pour les sœurs, pour ceux qui sont membres de la famille de Dieu, c'est un peu le thermomètre qui évalue l'amour de Dieu dans ma vie. Et quand je n'aime pas un frère, ça manifeste qu'il y a une zone dans ma vie où est-ce que je suis aveuglé. Je ne suis pas en contact, en communion avec l'amour de Dieu dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui me manque. Et le but, ce n'est pas de se sentir mal, c'est de revenir à l'amour de Dieu. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui fait, Seigneur, que je ne vois pas ton amour? Parce que je n'en vois pas les effets dans ma relation avec ce frère ou cette sœur-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous ramène à dire, là, ce que je vais expérimenter, c'est l'amour de Dieu. Et souvent, le Seigneur peut nous montrer des côtés sombres de notre cœur. Puis dire, attends, Seigneur, je ne t'ai pas demandé de montrer des côtés sombres. Oui, je veux te montrer les côtés sombres de ton cœur pour que tu puisses voir que malgré ça, je t'aime. Et souvent, c'est sur ce terrain-là que le Seigneur nous guérit. En conclusion, eh bien, les piles doivent être faibles. Dieu veut que je trouve en lui le sens ultime de l'amour, que je l'expérimente puis que je le transmette aux autres. Autant le mal a été condamné à la croix, autant l'amour de Dieu aussi se révèle à la croix parce que c'est là qu'il a porté mes fautes. C'est là qu'il est mort pour moi. C'est là qu'il a subi ma condamnation. Et si j'expérimente cet amour-là qui se trouve à la croix, eh bien, je vais le transmettre aux autres, pas par peur, pas par insécurité, pas pour être aimé davantage, mais parce que je veux faire goûter ce que j'ai reçu. Et vous savez, moi, beaucoup de gens le savent, et maintenant vous allez savoir, je fais une sortie, ce qu'on appelle en langage commun, un « coming out ». Je suis un amateur de pizza. C'est clair. Maintenant, vous le savez. Mais savez-vous quoi? En bon amateur de pizza, j'ai dégusté, il n'y a pas si longtemps, la pizza par excellence. Malheureusement, elle a surpassé Gabriel Pizza. Je suis désolé. C'est la Mitterrasse. Une fois par année, au moins, on est 7 frères et sœurs, on se réunit sans les conjoints, sans les enfants, pour rester connectés ensemble, pour garder l'esprit de famille. Et la dernière fois, ça se passait chez mon frère Luc à Montréal. Il a décidé de commander de la Mitterrasse pizza. Je vous dis, j'en ai les jambes qui ramollissent. Juste, je salive. J'ai mangé la pizza de ma vie. Puis là, ça me fait tellement plaisir de vous en parler. Pourquoi? Parce qu'elle est extraordinaire. Vous allez à Montréal, 2320 Rosemont à Montréal, vous allez manger la pizza du siècle. Je vous le dis. Asseyez-la. Mais moi, je suis tellement content de vous dire ça. En amateur de pizza, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il y a une pizza qui surpasse toutes les pizzas au monde. Mais imaginez, si j'ai de l'enthousiasme à parler de pizza, c'est clair que si j'expérimente, si je reçois de Dieu des actes, des actions, des paroles, des encouragements d'amour de la part de Dieu, ça ne peut pas me laisser indifférent. Si une pizza ne me laisse pas indifférent, qu'est-ce que l'amour de Dieu qui dépasse en largeur n'importe quelle pizza extra large? Quand le message de l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ça a un impact. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. On va terminer en priant. En priant que le Seigneur nous revisite, nous rappelle combien il nous aime et que ça produise un effet tellement grand. Parce que Paul, il dit, lui qui était comme, qui nous a donné l'essence du message de l'Évangile dans le Nouveau Testament, il nous a révélé sa motivation. 2 Corinthiens chapitre 5, l'amour de Christ me presse. C'est ça qui va redynamiser notre vie chrétienne. C'est ça qui va redynamiser notre vie de prière. C'est ça qui va redynamiser notre vie de couple. C'est ça qui va redynamiser notre vie de famille. C'est ça qui va redynamiser notre vie d'église. C'est ça qui va redynamiser notre impact, l'impact de Dieu au travers de nous dans cette communauté ici dans l'Outaouais. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ton amour qui est tellement personnel d'une personne à l'autre parce que tu nous aimes d'une manière personnelle. Tu nous aimes comme Église. Tu aimes comme Église, mais comme membre de cette Église, chacun de nous, tu as une histoire avec nous, un parcours. Et Seigneur, c'est au travers de ton amour qu'on découvre qu'on est unique. On découvre la grandeur du prix que tu as payé pour nous. Seigneur, merci de nous révéler à chacun de nous encore, d'une manière fraîche, d'une manière renouvelée, ton amour. Et si quelqu'un n'a pas goûté l'amour de Dieu, eh bien, viens à lui, demande-lui. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, si jusqu'à maintenant tu as résisté à Dieu, tu as résisté à sa voix, tu as résisté à sa parole, tu as peut-être des griefs contre lui, tu es peut-être déçu de Dieu, tu es peut-être pas content de la tournure des événements dans ta vie autour de toi, ou même à travers le monde entier. Mais là, au pied de la croix, tu peux changer ta vision des choses en disant, « Seigneur, je t'ai attribué plein de malheurs. J'ai considéré que c'était de ta faute si les choses allaient mal. Mais maintenant, je réalise que tu as pris cette faute. Tu l'as pris à la croix. C'est toi qui s'est fait coupable à ma place. Dans le fond, c'est moi, Seigneur, qui est coupable devant toi. Et j'accepte que tu sois mort à ma place. Je suis indigne d'être sauvé, mais merci qu'aujourd'hui, tu m'accordes une délivrance, de pouvoir faire partie de ta famille et de ne plus suivre cette condamnation qui pèse sur moi. Laisse le Seigneur parler à ton cœur et laisse maintenant le Seigneur te montrer combien il t'aime tel que tu es, pour que tu puisses découvrir son amour qui va te transformer, qui va t'amener à un moment donné à aimer les autres. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, amen.